10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'imam Abdelali Mamoun, vous savez qu'on parle d'islam pendant une heure, c'est tous les samedis sur Beurre FM, 10h, 11h. Comment ça va, imam Abdelali ?
Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bizarre, je m'entends comme avec un écho là. C'est normal ou c'est mon. Peut-être que c'est mon micro, mon casque ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Pas fameux. Voilà, là c'est vrai que c'est mieux là, c'est plus confortable.
Mais vous n'avez plus de casque ?
J'ai plus de casque, mais je m'entends mieux. C'est pas grave, naturel. Oui, alhamdoulilah, ça va. Philippe, je suis en plein déménagement.
Donc, encore ? C'est pas fini, votre
déménagement ? Ah bah ouais, parce qu'il fallait d'abord nettoyer tout. Il fallait tout refaire. La peinture.
Mais il est vidé, là, votre appartement.
Les fibres de verre. Hein ?
Il est vidé, votre appartement.
Là, vous, tu parles de l'ancien.
De l'ancien.
Oui, bah, même l'ancien, il faut le retaper un petit peu avant de le rendre. Hein. Tu peux pas comme ça le rendre au bailleur, comme ça. Hein. Il faut rendre tout, tout. Il y a tout à faire. Pff, je te raconte pas, c'est un vrai bazar. Une vraie galère. En tout cas, ces jours-ci, je ne vous oublierai pas, avant longtemps. J'ai jamais autant cravaché que ces jours-là.
Sinon, vous pouvez appeler Nadia El Bouga, c'est la reine de chez le roi Merlin, elle vous retape tout du sol au plafond.
Nadia El Bouga ?
Ah ouais, c'est la reine du bricolage.
Moi, je croyais que c'était plutôt celle qui s'occupait de tout ce qui se passe entre les cuisses. Mais à part ça, je savais pas qu'elle avait d'autres talents.
On dit la robinetterie.
La robinetterie humaine.
Bon, je vous parle de bricolage.
En plus, c'est vrai, j'ai un problème de robinetterie là, à la maison, dans la salle de bain.
Allez, Nadia.
Laissez-moi tranquille.
Non, je te jure.
Laissez-moi, sortez-moi de là.
J'ai un tuyau qui fuit. Non, c'est pas le genre de tuyau où il faut des couches. Hein. Je parle pas de cela. Non, je parle pas de celle-là.
Bon, Imam Abdelali, on arrête de parler de bricolage. On va parler de la bienfaisance en islam, Imam Abdelali, qu'on traduit par.
Ihsan, qu'on prend en arabe, qui se prononce. Comment ça s'appelle ? Qui se prononce Ihsan. Voilà. Attends, j'essaye de couper le son, j'y arrive pas. Ça va y arriver, ben, c'est pas grave.
Tiens, donnez à votre assistant, regardez, donnez votre téléphone.
Bon. Je sais plus, voilà, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Bon, voilà, tant pis, je suis à la radio, j'espère que la personne comprendra que nous sommes là en direct sur Beurre FM. Donc merci de me rappeler plus tard.
Alors, la bienfaisance, Imam Abdelali, il y a beaucoup de versets du Coran qui parlent de bienfaisance, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Il y en a un paquet.
J'en ai compté 66, pour vous dire, donc au moins 66.
Ah, ben, tu vois, tu veux... Bon, alors, il y en a un où, effectivement, on le retrouve deux fois dans le même verset. C'est la sourate le miséricordieux, Ar-Rahman, où Dieu dit « Hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan ». Est-ce que la bienfaisance ne mérite comme récompense que la bienfaisance elle-même ? C'est-à-dire en gros que celui qui accomplira sur terre des actes de bienfaisance, forcément obtiendra d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense qui est la meilleure des bienfaisances. Et souvent, les exégètes traduisent cette bienfaisance par le fait d'être au paradis et de voir la face de Dieu. Voilà, donc c'est le summum de la récompense divine, c'est de pouvoir être dans cette félicité qu'Allah Azza wa Jalla accordera aux bienfaiteurs.
Mais si on regarde le mot Ihsan, Imam Abdelali, quelle est sa racine ?
Alors, Ihsan, c'est les trois lettres Hasana, qui veut dire le bien. Hassan, quelque chose de bien, c'est Hassan. On dit le contraire de Hassan, c'est Qabih, c'est ce qui est moche, ce qui est pas beau, ce qui est mal. Mm-hmm. C'est le contraire de Hassan. Donc le Hassan peut être utilisé comme contraire de ce qui est beau, contraire de beau, et aussi contraire de bien. On dira quelque chose est Hassan, à la fois beau et bien. Et donc, Ihsan, c'est le fait de répandre ce bien. Comme le mot islam. Islam, ça vient du mot salima, qui veut dire être en paix, se mettre en paix ou transmettre la paix. Le islam, c'est répandre. La formule if'al, islam, par exemple ikram, par exemple du verbe karama, qui veut dire faire preuve de générosité. Eh bien, ikram, c'est répandre la générosité. Donc, la formule if'alun, ikramun, ihsanun, islamun, tu vois un petit peu tu comprends le radical étymologique. C'est ce qu'on appelle sarf al kalimat ou al asma il al mushtaqat qu'on appelle les dérivés du radical eh bien là voudra dire le fait de répandre la bienfaisance. Donc ihsan, c'est tout simplement d'un point de vue étymologique, c'est le fait de répandre et non pas simplement de faire le bien, c'est de vraiment le répandre. Comme quand on répand la paix, eh bien on pratique l'islam puisqu'on répand le salam. Et pareil pour le ikram, on va répandre la générosité autour de soi. Donc dans le Coran, une multitude de fois, ce terme-là est utilisé pour accentuer le fait de faire le bien, en particulier, bien sûr, envers les créatures qui nous entourent. On va parler de ihsan vis-à-vis de Dieu. Ça sera plutôt une notion spirituelle, mais vraiment spirituelle au sens profond du terme. Le mot ihsan, dans le sens spirituel, c'est le fait de sortir de cette insouciance, c'est de dépasser le grade de la foi. C'est-à-dire le fait de dépasser le grade de Al-Iman. Al-Iman, c'est la foi. Le degré au-dessus, c'est Al-Ihsan. C'est pour cela que l'archange Gabriel, quand il vient voir le prophète, alayhi salatu wasalam, pour lui apprendre et enseigner à ses compagnons comment apprendre la religion, les questions qu'il va poser, ce sont des questions basiques. Il va lui dire, qu'est-ce que l'islam ? Et le prophète va répondre, l'islam, c'est les cinq piliers de l'islam. Ensuite, il dit, qu'est-ce que l'iman ? Et là, il va citer les six piliers de l'iman. Tu'mina billah wa malaikatihi, etc. Le fait d'avoir en foi en Dieu, aux anges, etc.
Ce qu'on a vu la semaine dernière.
Et ça, après, c'est le deuxième. Et ensuite, il passe à la troisième question qui est le degré de la foi. Le troisième degré de la foi, qui est l'ihsan. Et il lui dit, qu'est-ce que l'ihsan ? Et là, qu'est-ce que le prophète répond ? Il ne dit pas l'ihsan, ouais, c'est de faire du bien autour de soi, etc. Parce qu'il est d'abord dans une interrogation relative dans la relation que l'homme a avec son créateur. Et donc, quelle est la relation que l'homme va vis-à-vis du créateur ? C'est tout simplement de ne pas faire preuve d'insouciance et d'indifférence. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est le fait d'être dans le rappel, dans le dhikr. Donc, c'est le fait de faire preuve de présence divine, c'est-à-dire se rendre compte à chaque instant que l'on vit que Dieu nous observe, que Dieu nous regarde. Et c'est ce que va répondre le prophète quand Jibril, l'archange Gabriel, va lui poser la question. Mal ihsan, قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. C'est d'adorer ton Créateur comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه, car si toi tu ne le vois pas, فإنه يراك, lui il te voit par contre. Et donc cette prise de conscience que nous sommes observés par Dieu et qu'en contrepartie nous sommes invités à faire preuve d'observation et de présence divine, istihdar bil arabi on appelle ça, istihdar al mawla azza wa jal, c'est le summum de la foi. Parce que qu'est-ce que c'est que la foi ? Quand on dit quelqu'un, il dit à un moment donné on va lui dire hey, « Eh toi tu crois en Dieu ?» Il va dire « Oui je crois en Dieu. » Bon, celui-là il a la foi. Mais être dans l'adoration perpétuelle, qui est de faire preuve de présence de Dieu, c'est-à-dire de constamment être conscient de que Dieu te voit. Forcément, cela va avoir des conséquences. Cela va avoir une réaction. Si tu sais que celui qui va t'examiner, imagine que tu es dans un tribunal et que le juge qui va quelques instants après prendre une décision et une sentence, soit d'acquittement ou bien de punition et de sanction et de prison ou de peine de mort, ou bref, je sais pas. Hein, imagine que dans ce tribunal-là, l'acte qui est jugé est accompli dans le tribunal lui-même. C'est à l'intérieur même du tribunal où le juge te regarde et toi tu vois le juge te regarder. Et à l'issue des quelques instants, puisque Dieu lui-même dans le Coran il parle de cette vie comme étant quelques instants d'une journée, puisque les anges vont interroger les gens dans l'enfer, dans le Coran il est dit qalu kam labistum fil ardi adad sinin, combien êtes-vous resté d'années. La question elle est en années, donc la mesure de temps est utilisée par les anges en années. Kam labistum fil ardi adad sinin, ça veut dire années, combien d'années vous êtes resté sur terre. Et là, quelle est la réponse ? Celui qui répond ne va pas utiliser la mesure année, mais il va utiliser le terme jour. Et il va dire « قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا » Nous sommes restés un jour « أَوْ بَعْضَ يَوْمًا » ou quelques moments de cette journée. C'est-à-dire même pas une journée. Mm-hmm. Moins d'une journée, nous sommes restés sur terre. Donc même la réponse ne va pas correspondre avec. Et donc, ces quelques instants que nous vivons dans ce bas monde, aux yeux d'Allah Azzawajal, sont insignifiants. Et c'est pourtant, malgré tout, c'est ces quelques années que nous vivons sur terre qui sont examinées et qui font et qui déterminent notre sort que nous subirons le jour de la résurrection. Et donc le croyant est invité à faire preuve de patience et se dire Allah khair, inshallah ta'ala, je vais profiter de la vie, hein, il n'est pas interdit. Qala ta'ala wala tansa nasibaka min ad-dunya, hein, n'oublie pas ta part de ce bas monde, wabtaghi ad-dar al-akhirah, mais aie toujours à l'esprit de réfléchir à ce que tu vas présenter le jour de la résurrection devant ton Seigneur et devant ce juge au tribunal divin qui va examiner tes actes. Et donc à partir de là, le croyant, puisqu'il est toujours dans cet acte de présence, dans le ihsan, eh bien, il va constamment essayer de s'approvisionner, d'emmagasiner un maximum de bonnes actions pour pouvoir présenter au juge, à Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, qui va le juger, un maximum de bonnes actions pour qu'il puisse obtenir de lui la satisfaction, son agrément et bien entendu la béatitude et la félicité au paradis. Ce qu'on appelle en arabe al-falah, les huwa à la fois la joie, le bonheur et en même temps la réussite. Voilà, c'est la définition de ce que mot, du mot falah.
Bien. Dans quelles circonstances, Imam Abdelali, ce mot est-il utilisé dans les textes religieux?
Alors, il est utilisé souvent aussi pour parler de la relation que le croyant va avoir avec les autres créatures. Alors, on en a bien entendu le plus important, c'est les parents. Dans le Coran, à maintes reprises, Dieu va utiliser le terme ihsan. Donc, on dit wabil walidaini ihsan, et la bienfaisance envers les parents. Alors, ça, on le retrouve à chaque fois. À maintes reprises, où est-ce que Dieu demande aux croyants que, quand le prophète est interrogé, quelle est la personne qui mérite le plus à même ma bonne compagnie, ma bienfaisance, tout de suite, la réponse du prophète, c'est Ummuk, ta mère. Ensuite, le compagnon voudrait savoir quelle est la seconde personne derrière la mère qui mérite le plus à même à être, à qui on doit faire preuve de bienveillance et de bonne compagnie. Le fait d'être en bonne compagnie et faire preuve de bonté pieuse. Et là, le prophète va répondre encore une fois, Ummuk, encore une fois ta mère. Et là, encore, il va dire, oh, mais je voudrais connaître celui qui vient après. Et là, le prophète va encore dire ta mère, Ummuk. Et ensuite, à la quatrième question, à la quatrième fois, il va répondre ton père, donc Abouk, à la quatrième fois. Donc c'est bien les parents qui sont les cibles principales de ta bienfaisance vis-à-vis des créatures qu'il y a sur terre. Ensuite vient les autres, alors les membres de la famille, puisque le Coran dit « Wabidil qurba », hein, et il dit « Wabil walida in ihsana »« Wabidil qurba », c'est-à-dire les proches de la famille, « Wal yatama », les orphelins, « Wal masakin », les misérables, « Wal jari dil qurba », le voisin qui habite à côté de chez toi, « Wal jari il junubi », c'est-à-dire celui qui est tous les jours ton partenaire, celui qui fait des choses avec toi, « Wal sahibi bil jamb », et donc toutes les sahib, c'est-à-dire cet ami que tu as et qui est proche de toi. Donc en gros, le croyant est invité même vis-à-vis de l'étranger qu'il ne connaît pas et qui est dans une situation plutôt fragile parce qu'il n'est pas protégé par sa tribu, par sa famille, par son environnement, c'est-à-dire cet immigré, par exemple ce migrant qui est loin de chez lui, eh bien quand il tend la main, quand il demande de l'aide, Dieu, le Coran nous dit ou ibn sabil, ainsi que celui qui est le vagabond, celui qui est en train de circuler, ibn sabil est lui aussi concerné par cette bienfaisance que tu lui dois. Ainsi il dit aussi wa ma malakat aymanukum, ainsi que les personnes qui sont sous ton autorité, donc contre qui tu as un pouvoir, une autorité, par exemple un officier vis-à-vis de ses soldats, un patron vis-à-vis de ses salariés, une personne qui a une relation supérieure par rapport à un subalterne, ainsi de suite. Voilà, Dieu demande que le croyant, au-delà du degré de la foi, fasse preuve de bienveillance, de bienfaisance et atteigne ce degré qu'on appelle al-ihsan. Et par exemple, dans un verset, il nous enseigne aussi à contrôler nos émotions, à ne pas se laisser emporter par nos émotions et avoir une réaction que l'on va regretter après que les émotions soient. Et donc il nous demande que si vous, à un moment donné, vous êtes provoqué et que quelqu'un vient vous énerver, eh bien Dieu considérera cela que si vous contrôlez votre colère et votre rage et que vous sachiez estomper et maîtriser cette colère, eh bien Dieu le jugera cette résistance comme étant un acte de bienfaisance. Il dit dans le verset wal kadhimin al ghayza wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Philippe, je pense que
je suis en train de provoquer votre colère, Imam Abdelali. Je suis en train de provoquer votre colère.
Parce que là, il faudra une caméra pour que les gens comprennent ce qui se passe sur le plateau. Philippe, il fait des grimaces. Il me regarde.
Non,
il essaie
je
de m'énerver.
Provoque votre colère. D'accord. Pour voir si vous êtes fort.
Tu n'y arriveras pas.
Non, vous résistez.
Alhamdoulilah.
Vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun. 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de l'islam au présent. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Mehdi est avec nous. Mehdi vous appelle de Lyon, imam Abdelali. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour l'imam, bonjour Philippe.
Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.
Donc j'avais une question à vous poser à l'imam. Donc moi j'ai eu un choc émotionnel qui m'a fait perdre mes cheveux, ce qui me contrarie énormément et psychologiquement. J'aurais aimé savoir ce que dit le Coran sur la greffe des cheveux, est-ce que c'est licite ou pas licite?
Moi je vois pas d'inconvénient, il y a pas de problème. Alors oui, il y a pas de difficulté. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle al-wasl. Al-wasl, c'est-à-dire le fait quand tu as des cheveux d'ajouter aux cheveux des mèches, c'est-à-dire
des extensions,
c'est ça. C'est les extensions qui sont proscrites dans le hadith du prophète qui dit la'anallahu al-wasila wal mustawsila. Dieu maudit celle qui fait des extensions et qui se rajoute, c'est-à-dire la dame, la coiffeuse qui met les extensions et la cliente qui reçoit ces extensions. Loi, c'est là ou le monstre, c'est là. Donc, par contre, retrouver une apparence normale qui est d'avoir une chevelure sur la tête et d'utiliser les moyens parce que parfois des personnes sont très complexées de pas avoir de cheveux. Non, il n'y a pas de difficulté. Allah est sahel alik, akhoya. Avoir des cheveux, c'est normal. Ne pas en avoir, c'est pas normal. Donc,
Mais ça veut dire qu'on refuse aussi les lois de la nature.
Comment ça, les lois de la nature?
Si vos cheveux y tombent, c'est que c'est la nature qui a décidé que vos cheveux tombent.
La nature choisit que, et moi je choisis de me refaire. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont avoir à certains endroits de la tête, ils vont avoir des cheveux, d'autres endroits non. Et ça va pas faire joli. Par exemple, tu sais, du genre Gérard Jugnot, là, tu vois ce que je veux dire, là? Philippe.
Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Gérard? On balance pas de nom.
Il est décédé, il ne pourra pas se venger.
Mais il est super vivant.
Ah, il est vivant, non, c'est qui qui est décédé alors?
Bref, c'est pas ça.
Il y en a plein des anciens.
Non, ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est qu'en fait, la nature a décidé que vos cheveux tombent. Donc ça veut dire que là, si vous en rajoutez, c'est que d'une certaine
vous
façon.
Vous retrouvez. Normaliser, redonner une apparence normale à votre corps, c'est autorisé. Ce qui va être interdit, c'est embellir. C'est-à-dire ajouter du superflu, quelque chose qui n'est pas naturel chez un être humain. Par exemple, vous avez un nez qui est, par exemple, tordu ou des becs de lèvres.
Un bec de lièvre,
voilà. Et ça, c'est pas naturel. Donc, corriger ça, faire de la chirurgie réparatrice, c'est autorisé. Faire de la chirurgie esthétique, c'est interdit. Non. C'est la chirurgie esthétique qui est interdite. D'accord? Mais la chirurgie réparatrice qui redonne une apparence normale, par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas du tout de poitrine. Eh bien, se faire le nécessaire pour avoir une poitrine normale, c'est autorisé. Par contre, elles ont une poitrine, mais elles veulent avoir quelque chose énorme. Ça, c'est pas autorisé. Parce que là, on passe de la réparation à l'esthétique. Et ça, c'est proscrit.
On passe de la réparation à l'exagération.
À l'exagération. Voilà, tu as raison. C'est ça. Et là, avoir des cheveux...
J'ai bien répondu, l'imam.
En gros, voilà, le résumé, c'est que planter des cheveux, ce n'est pas de l'exagération. C'est de la réparation.
En plus, c'est nos propres cheveux.
Ah, en plus, si c'est tes propres cheveux, Allahumma barak. Tu remets tes cheveux sur ta tête, c'est encore bien, très bien. Mais même si c'est celui de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de difficulté. Je répète, la chirurgie réparatrice est autorisée, la chirurgie esthétique ne l'est pas. Il peut y avoir, je dis bien, divergence sur cette question-là. Donc, faut pas me dire, ouais, mais tel imam, il a dit ça, etc. Je dis bien, il peut y avoir divergence. Moi, je suis plutôt dans toujours suivre la recommandation du prophète. Qui était.
J'ai lu ce que vous dites. Une confirmation.
Yassiru ala tu'assiru.
Oui. J'ai lu ce que vous dites.
Allah il s'éhale avec mon frère.
Bon, donc vous avez prévu d'aller faire ça où, Mehdi?
En Turquie, c'est ça ou en...
Je sais pas.
Oui. En Turquie. La Turquie,
la Turquie, c'est les spécialistes.
Voilà.
Allah il s'éhale avec Akhoya.
Merci Mehdi pour votre question.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je t'en prie.
À bientôt. Zora dans le Nord au 01 53 48 3000. Zora, bienvenue.
Oui, bonjour. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alors, j'avais une question par rapport à la Romra. Là, j'essaye d'organiser un groupe pour partir à la Romra en février. Alors, je ne suis pas du tout guide, rien de tout ça. Mais voilà, j'essaie de contacter des associations.
Mais madame, est-ce que vous avez une question?
Oui, ben, je voulais savoir. Alors, j'ai eu la question. À partir de quel âge on peut partir à la Romra seule?
Vous parlez pour une femme ou un homme ou n'importe qui?
Non, la femme, pardon.
Bah, aujourd'hui, celle qui a un passeport français peut obtenir facilement, même par Internet, un e-visa, c'est-à-dire un visa électronique, sans limite d'âge.
Sans condition d'âge.
Sans aucune condition. Si vous avez un passeport français, vous obtenez un visa touriste, et avec ce visa touriste, vous pouvez aller partout en Arabie Saoudite.
Si vous avez 30 ans, vous pouvez.
N'importe quel âge. Vous pouvez obtenir votre visa pour aller en Arabie Saoudite et donc entrer dans n'importe quelle ville, à Médine, à Mecca, à Jeddah, à Riyad, à Dammam, à Tabouk, etc. C'est dans toutes les villes d'Arabie Saoudite. C'est comme quelqu'un qui vient avec un visa Schengen, qui va en France, et ben il peut aller partout dans le territoire de Schengen.
Alors pour préciser la question de Zora, on va pas lui demander d'avoir un mahram.
Voilà, donc là il y a la dimension religieuse. Est-ce qu'une femme peut-elle voyager en général sans mahram? Moi je pense qu'à partir du moment où est-ce qu'elle va, est un lieu qui est garanti par un service de protection civile, avec un état de droit appliqué partout, sans qu'il y ait... par exemple, si vous me dites, demain, je vais aller sur le front ukrainien en Russie, ou bien en Afghanistan, là où il y a les talibans qui font la guerre à l'armée régulière, ou dans des endroits, des territoires où la vie d'une femme pourrait être en danger. Eh bien là, on va lui dire, madame, faites attention. Le hadith du prophète qui dit qui n'est pas permis... Il n'est pas permis à une femme de voyager plus de trois jours sans qu'elle soit accompagnée par un mahram. C'est tout simplement parce que à l'époque du prophète, quand une personne sortait de l'agglomération de la ville où elle se trouvait, Mecca par exemple ou Médine, tout de suite on se retrouvait dans une zone de non-droit où c'était les territoires réservés aux brigands, ceux qui attaquent les caravanes, etc. Donc on se retrouvait dans des zones de non-droit. Une femme seule, voyageant même sur une monture seule, elle était presque sûre de se faire agresser. Donc pour la protéger, l'islam lui a dit, bah non, tu pouvais pas voyager. Mais aujourd'hui, prendre un TGV, faire un Paris-Bordeaux, il y a encore des gens un peu obtus d'un certain courant que je ne citerai pas et qui termine par ist, il y en a beaucoup des ist, vont vous dire non, c'est haram, on ne peut pas voyager de Paris à Bordeaux dans un TGV parce qu'elle a dépassé la distance du voyageur.
Et la question est pas
celle-là.
La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'un groupe de femmes peut aller faire une omra sans mon
sens? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en tout cas, les autorités saoudiennes l'autorisent et les autorités saoudiennes sont encadrées par des avis religieux, par un conseil des ulama, des savants saoudiens. S'ils l'autorisent, eh bien, c'est tout à fait possible. Par contre, la difficulté, c'est pour celui ou celle, une femme, qui va avoir un passeport marocain ou un passeport algérien, ou un autre passeport non français avec une carte de séjour, et elle va faire une demande de Umrah. Eh bien là, effectivement, moins de 45 ans, on va exiger un accompagnateur. Ce ne sera pas un e-visa, c'est-à-dire la personne devra déposer ses documents originaux au consulat général d'Arabie Saoudite à Neuilly-sur-Seine, et faire la demande souvent par le biais d'une agence, c'est l'agence qui fait le nécessaire. Mais vous pouvez, si vous avez des passeports français, voyager sans... Les visas se fait par ordinateur, donc de chez vous, vous pouvez faire la demande. Vous envoyez simplement la photo scannée, le passeport scanné, et ça passe.
Non, mais là, on va essayer de passer par une agence quand même.
Parce qu'il n'y a pas que la question du visa. Il faut aussi le billet d'avion. Donc forcément, il faut une agence qui peut délivrer des billets d'avion. Il faut la réservation là-bas, avec une société qui va vous encadrer et transporter votre groupe d'un secteur à un autre, de Mecca à Médine, les Mazarats à Mecca et à Médine, etc. Et entre, bien entendu, Mecca et l'aéroport de Jeddah. Donc, il y a tous les déplacements sur place qui se font par le biais souvent de transporteurs, de Sharikat Naqal, Sharikat Al-Mutawifin, etc. Et ça, c'est, je parle de la Omra. Attention, là, je ne suis pas en train de parler du Hajj. Hein. Tout
non,
ça,
non, non,
je parle de la Omra.
Oui, ah, c'est parce qu'on a contacté pas mal d'agences qui ne veulent pas prendre les femmes sans mahram. Donc, c'est pour ça.
Bah, écoutez, vous m'appelez hors antenne, moi, je vais essayer de vous régler ça.
Alors, j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, vous ne répondez pas.
Alors, vous avez fait le 06 29 25 35 00 ?
Je renote. Alors, 06
29 25 35 00. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, vous me laissez un message.
J'ai laissé un message et vous m'avez parlé.
C'était quand ?
Alors, je sais que vous étiez absent tout le. Jusqu'en. Vous étiez parti à la Romra. Et quand vous êtes rentré, je vous ai laissé un message.
Alors, attendez. Mais là, vous parlez de début de l'année, 2022, là. C'est carrément début de la février. Février 2022.
Non, je vous ai appelé il n'y a pas longtemps.
Ben, j'ai pas été à la Romra là récemment. J'étais en Algérie. J'étais au Bled.
Oui, j'étais au Bled.
Ben, si vous appelez en été, juillet, août, c'est sûr que là, c'est.
Non, je vous rappellerai. D'accord. Une dernière petite question. Quand on est à la Mecque et qu'une dame a ses règles, est-ce qu'elle peut se aller faire la prière ou elle doit rester dans la chambre de l'hôtel?
Non, elle peut aller où elle veut, sauf entrer dans la mosquée de l'Haram, la mosquée sainte.
D'accord.
Elle peut aller, okay. Elle n'est pas obligée de rester dans sa chambre, elle peut aller dans les restaurants, dans les magasins, elle peut aller dans les abords de la mosquée, hein, ce qui entoure la mosquée, mais elle ne peut pas rentrer dans l'enceinte de la mosquée et bien entendu, elle ne prie pas, elle n'a pas à prier. Ok.
Voilà pour la question de Zora, 01 53 48 3000.
Et c'est partout pareil, hein, c'est pas que là-bas, hein. Même ici en France, c'est la même règle.
On reviendra avec vos questions dans un instant. Al-Imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. L'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, Widad est avec nous. Widad est à Cergy au 01 53 48 3000. Bienvenue, Widad.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam. Wa rahmatullah wa barakatuh.
C'est ce que je voulais entendre. Juste une petite remarque, ça n'a rien à voir avec votre émission. Pourquoi les gens, quand ils arrivent avec un bonjour en sachant qu'on parle à un imam? Même Philippe, il sait répondre.
Ah bah moi, je dis toujours bonjour d'abord, et puis après, voilà.
Ouais, bon.
On s'adapte.
Alors, je voudrais quand même expliquer aux gens, oui. Parce qu'on parle à des, on parle à des milliers d'auditeurs.
Oui,
dire bonjour et dire bonsoir, ou bonne journée, ou bon week-end, ou bonne année, ou je ne sais quoi, ça n'est pas interdit. C'est même tout à fait louable.
Ah,
c'est pas haram. Maintenant, est-ce que entre bonjour et salam alaykoum, qu'est-ce qui est mieux? C'est salam alaykoum, que la paix soit sur vous. Voilà. Inch'Allah. Mais si quelqu'un m'appelle et nous dit bonjour, on va pas l'accabler. On essaie d'être courtois
c'est juste parce qu'on gagne des hassanats. On gagne,
voilà, c'est vrai, on gagne 10 hassanats, salam alaikum, 10 hassanats.
Et on est en France, tout le monde côtoie les musulmans, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, salam alaikum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, bref, moi je pose ma question.
Allez-y.
Alors non, mais là, pour une fois, je suis pas d'accord avec vous, Widad, je suis pas très sûr que les gens connaissent bien la signification du salam alaykoum.
Bah c'est comme shalom, c'est
la
paix.
Ah non, tu parles pas de la signification, voilà. Ils savent que c'est un salut.
Voilà, c'est ça. Mais sur la signification, non.
Que la paix soit sur vous.
C'est la paix, oui.
Étymologiquement, que la paix soit sur vous.
C'est comme l'islam, l'islam c'est la paix, ça vient de l'islam. Bref, qu'est-ce que je vais dire? Bon, je ne sais pas, monsieur, mon frère, l'imam, si vous regardez la télé ou pas. Ah, oui, il y a une publicité qui passe sur le CBD. CBD, la ferme du CBD. Non. C'est une plante de cannabis. J'ai demandé à mon fils, je lui dis, c'est quoi ça? Il m'a dit, maman, c'est médical. Il m'a dit, c'est pour les inflammations, c'est pour les articulations, ça aide dans les douleurs. Puisque mon fils, il est étudiant en pharmacie, il m'a dit, on en vend ça. Il m'a dit, on a une patiente, une cliente, qui a toujours mal sous morphine et comprimé douleur et tout. Il m'a dit, malgré ça, la douleur, elle est là. Il m'a dit, elle prend ça et ça la soulage. Je lui dis, mais religieusement, est-ce que c'est haram ou pas? Il m'a dit, maman, c'est médical. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur lui-même?
Alors, je vais donner une réponse générale. Hein. Tous les médicaments dans lesquels il y a des substances que l'on peut juger comme étant illicites. Comme par exemple la gélatine de porc, vous savez, les gélules, parfois elles sont fabriquées avec de la gélule de porc. Ou des médicaments qui contiennent de l'alcool. Ou des produits stupéfiants, des produits qui sont on va dire qui réagit sur le comportement. Eh bien, si ce produit-là, ces médicaments, n'ont pas de substitution, c'est-à-dire n'existe pas d'alternative, quelque chose qui pourrait remplacer et avoir le même taux d'efficacité, eh bien, on a le droit de l'utiliser dans le cadre de la règle qui est la nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'il y a darura allati tubih al-mahdhurat, ila tfham al-arabiya. هذه قاعدة في الأصول تقول الضرورة يعني la nécessité تبيح المحظورات va permettre et autoriser ce qui ne l'est pas. D'accord. المحظور ça veut dire المحرم بمعنى المحرم. Donc ça c'est la première chose. Maintenant un produit stupéfiant. Est-ce que c'est vraiment illicite? Est-ce qu'on a des textes qui interdisent? On n'a pas de texte qui interdit les produits stupéfiants à proprement dit, mais le texte générique c'est كل مسكرين حرام. Tout ce qui enivre est interdit. Mais là, est-ce que c'est véritablement un enivrement? Quelqu'un de drogué est-il vraiment enivré? C'est peut-être pas la même...
C'est un état de conscience modifié.
Oui, mais est-ce qu'il est ivre? C'est-à-dire, est-ce qu'il perd la notion de la réalité, ce qui est autour de lui? Alors, ça dépend. Si c'est une drogue dure, si c'est une drogue... Ben là, moi, je pense qu'un médicament qui va agir sur une douleur, par exemple, la morphine. Aujourd'hui, on sait que la morphine, c'est une drogue. Il n'y a pas photo. Ouais. La morphine, c'est une drogue lourde qui est un dérivé de la cocaïne. Mmh. C'est du lourd, la morphine. Mais si vous ne la prenez pas en cas d'extrême douleur, pour calmer la douleur de... Moi, par exemple, j'ai eu une crise néphrétique. Hein, je n'ai pas de problème d'en parler. Hein. Crise néphrétique, vous savez ce que c'est. Sur l'échelle de la douleur de 1 à 10, le 10, c'est l'accouchement. Hein, le top, la douleur la plus grave, c'est-à-dire sans bien sûr, péridurale. Une douleur extrême qui atteint le degré de 10 sur 10 en douleur, c'est un accouchement sans péridurale. Eh bien, moi, j'avais atteint la douleur de 9 au niveau douleur, mais constante, c'est-à-dire c'était constant. Donc là, j'ai eu besoin de produits dérivés de la morphine qui m'ont permis véritablement de d'être soulagé de plus avoir mal. Mm-hmm. Et c'est de la drogue. La ghalib, mais là, darura.
Moi, je m'en souviens d'ailleurs.
Ah, c'était horrible. Ah, Philippe.
Je souhaite la période de sevrage.
C'est pour ça qu'on appelle crise. Ah oui, il y a le sevrage après derrière.
Je me rappelle, mais oui.
Parce que si tu l'arrêtes, prends pas, tu t'arrêtes.
J'ai cru que l'imam, il allait claquer dans le studio ce jour-là.
Oui, surtout au moment du sevrage. Parce que quand vous en prenez pendant 10 jours ou 15 jours, et que pendant 10 jours vous êtes accro, vous avez un manque, un sentiment, vous avez des sueurs froides, des insomnies, tout ça.
Vous êtes mis à transpirer.
Ouais, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti cette. Ah ouais. J'avais jamais eu cette réaction-là, ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre. Et je souhaite à personne. En tout cas, si c'est un médicament indispensable, nous disons oui, puisque la nécessité fait loi. D'accord ? Si c'est un médicament qui n'est pas nécessaire, c'est plus du confort qu'autre chose, qui sert à rien, c'est juste pour aller mieux, ou plutôt énergétique, ou donner du punch, ou ce genre de choses, là non. On ne va pas utiliser ce genre de produits stupéfiants, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les produits dopants, c'est sûr que c'est haram.
Oui.
Parce que là, c'est purement pour améliorer ses performances sportives.
Voilà, c'est des questions qui vont de plus en plus se poser avec l'arrivée de cette nouvelle classe de molécules sur le marché.
Oui, bien sûr.
Le CBD. Alors,
je ne connaissais même pas, tu vois.
CBD?
Non.
Alors, il y a de plus en plus de boutiques qui vendent des substituts à base de CBD. Oui, alors... Giovanni.
Dans le cannabis, il y a deux substances. Du THC, qui lui est vraiment produit dopant, addictif, qui rend vraiment le cerveau un peu corrompu. Ouais. Et il y a la molécule un peu plus light, si je puis dire, qui là est vraiment sur l'effet douleur, etc., calmer les douleurs, qui s'appelle le CBD.
Eh bien, ça, c'est autorisé. Moi, je ne vois aucun inconvénient. Puisque là, si ça n'agit que sur la partie douleur...
Ce n'est que de l'antidouleur.
C'est autorisé.
C'est même autorisé au volant.
Donc, non, il n'y a pas de problème.
Voilà, il n'y a pas la molécule qui rend vraiment... corrosive, on va dire.
D'accord. Eh bien là, oui. Bah, pas de difficulté.
Voilà notre expert en drogue, Giovanni, qui est avec nous. Eh oui, mais merci
ça d'intervenir. Plus n'oublie pas ma barrette après l'émission.
Voilà, la barrette.
Dans votre barrette, il y a les deux. Il y a le THC et le CBD.
Non, mais
dans
c'est
votre
pour
barrette.
Les cheveux, là, les barrettes, tu sais.
C'est ça.
Voilà, pour accrocher mes cheveux.
J'accepte votre différence, voilà. Imam Abdelali. Voilà, faites ce que vous voulez avec vos cheveux, d'ailleurs.
Voilà.
Si vous voulez que j'ai des adresses en Turquie, là, avec Mehdi, vous allez partir en Turquie, on va vous faire un petit rattrapage sur votre calvitie. Alors,
j'ai pas de calvitie.
Zineb, qui est avec nous. Zineb est à Toulouse. Bienvenue, Zineb.
Salam alaikum,
cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Moi, j'ai une question à vous poser. C'est concernant le vernis pour ospalate. Donc, je sais qu'il est interdit.
Mais alors, non, attendez, attendez. C'est pas interdit. C'est pas ça la question. C'est pas le vernis qui est interdit. C'est le fait qu'une condition de validité de la prière, c'est de faire ses ablutions.
Voilà.
D'accord. Et pour que les ablutions soient validées, il faut que l'eau touche l'intégralité des parties concernées. Par exemple, les bras, le bras avec la main, il faut que l'eau touche jusqu'au bout des ongles. Et si vous avez du vernis, donc ça veut dire qu'il va y avoir un isolant qui va empêcher l'eau d'atteindre l'ongle. Donc certains savants ont dit non, on peut pas mettre du vernis et faire les ablutions. Donc vos ablutions étant invalides, votre prière va être invalide. Mais c'est pas haram, c'est pas le vernis qui est haram. D'accord.
Oui,
imaginons une femme pendant sa période de menstrue.
Voilà.
Elle met du vernis. Elle a pas de prière à faire, elle met du vernis. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit.
C'est pas interdit.
Ou par exemple, elle le met le matin après le fajr et elle reste à la maison, elle met son vernis. Ou le soir, elle le met le soir après l'Isha et le matin, elle l'enlève. C'est pas interdit. C'est pas du tout interdit.
Voilà. D'accord. Mais moi, la question que je vous pose, c'est que récemment, j'ai découvert un vernis halal.
Alors, on ne dit pas halal, ça veut dire qu'il n'est pas isolant, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'eau d'arriver et d'atteindre l'ongle, de toucher l'ongle.
Voilà, moi, je ne vous cache pas, je l'ai acheté.
Oui, ça fait longtemps, ça, c'est pas dire ça.
Mais est-ce qu'il est valide?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous... Mais écoutez, madame, moi, je donne la règle, je dis ce que disent les savants. Les savants disent que, une majorité considère que, à partir du moment où il y a un isolant qui empêche l'accès de l'eau, eh bien, ça n'est pas autorisé. D'autres savants plus souples, et moi j'aime bien cet avis-là, j'ai de plus en plus tendance à... Je vois pas pourquoi, quand on est peintre, par exemple, et qu'on n'arrive pas à nettoyer toutes les taches de peinture sur son corps après avoir une journée de travail, on s'est couvert, eh bien, on fait la prière avec les moyens du bord. L'eau va pas toucher certains endroits de la peau, bah c'est pas grave. On fait la prière quand même en se lavant et en passant l'eau par-dessus les gouttes de pinceau qu'on n'a pas réussi, les gouttes de peinture qu'on n'a pas réussi à enlever. Pareil pour quelqu'un qui met un pansement, pareil pour quelqu'un qui a besoin dans son travail de couvrir ses ongles, ses doigts ou je sais pas. Bref, dans ce cas-là, la nécessité fait loi. Là, encore une fois, j'utiliserai ce qui est nécessaire. Et pour moi, une femme qui est embellie, qui est coquette et qui aime se faire belle, pour moi, est une nécessité et quelque chose d'important, surtout quand elle est mariée, que elle sait que son mari l'aime encore plus, elle aime le séduire et qu'elle est, et que pour cela, elle a besoin de se maquiller, tout ça pour faire plaisir à son mari. Et ben moi, je suis de cet avis qui considère que ça fait partie des ce qu'on appelle umur al-ma'fi anha, qui sont tolérés et qui dans lequel la religion peut faire preuve d'indulgence, comme elle le fait pour, par exemple, les pansements ou les bandages ou les plâtres, etc., etc.
Voilà, Zineb, est-ce que c'est bien clair pour vous?
Oui, très bien. Je vous remercie, cher.
Je vous en prie.
Merci, Zineb, pour votre question. Alors, Imam Abdelali, vous organisez une Omra très bientôt.
Oui, le 25 octobre, Inch'Allah, jusqu'au 5 novembre. Donc nous avons donc une période d'abord à Médine, puisque nous allons descendre d'abord à Médine pour faire les ziyarat, les mazarat comme on dit, les lieux qui font l'objet d'une visite, tels que la tombe du prophète, Rawda Sharifa, etc. Mais aussi Quba, Uhud et plein d'endroits intéressants. Ensuite nous allons descendre à Mecca en état de sacralisation pour accomplir la Omra et refaire une deuxième Omra à partir de la mosquée de Aïcha. Pour ceux qui souhaiteront refaire une deuxième Omra, là aussi, certains vont dire « Ouais, mais c'est pas autorisé. Bon, pourquoi ça serait pas autorisé ?» Il y a certains savants qui ne l'autorisent pas, d'autres qui l'autorisent. Et ceux qui l'autorisent pensent qu'il n'y a aucun avis contradictoire interdisant la possibilité. Et en particulier à ceux qui habitent très loin. Hein, ces savants-là qui l'autorisent vont dire « Mais pourquoi vous empêchez à ceux qui habitent trop loin, qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire de pouvoir venir souvent à la Mecque, parce que ça coûte, hein, il faut aller à la Mecque, c'est 2000 euros, hein, pour, au moins avec les frais. Avec les frais
ça a doublé. Hein.
Doublé, non, on va dire, ça a augmenté un petit peu. Mais
ouais, non, pas un petit peu. Ça
a... pour avoir un produit confortable, Philippe, un hôtel 5 étoiles en face de l'Haram, c'est le prix. Pour avoir un hôtel vraiment en face, tout de suite, quand tu descends de l'hôtel, tu es face à la mosquée et tu rentres tout de suite. Par contre, si tu veux t'éloigner à 1 kilomètre ou 2, là, tu peux trouver à 1200, 1300. Effectivement, les tarifs sont beaucoup plus bas. Mais voilà. En tout cas, avec moi, ce sera toujours quelque chose de confortable. et d'accessible. Donc je peux prendre avec moi des personnes âgées, même des personnes à mobilité assez réduite, hein, qui peuvent quand même marcher mais doucement, ou effectivement on peut parfois compenser avec des chaises roulantes, etc. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Je vais répéter, donc 06 29 25 35 00. Voilà le numéro pour partir avec moi, Inch'Allah, le 25 octobre jusqu'au 5 novembre, Inch'Allah ta'ala, et vivre des moments de spiritualité intense, mais aussi de savoir et de connaissance.
Bon, et ça se remplit, c'est très bientôt le départ, Imam Abdi Ali. On vous retrouve samedi Inch'Allah. Prochain. Dans un instant, vos petites annonces, week-end sur Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.